Est-ce que tu peux présenter à nos lecteurs le groupe et enfin son, sa genèse?
Le groupe et sa genèse. Alors, Fabien Police, nous, on est originaire de Marseille, on existe depuis 2009. C'est vrai qu'au départ, on était un groupe de potes qui s'est formé pour pouvoir faire de la reprise rock dans les pubs. Donc voilà, tu vois, on jouait Red Hot Chili Peppers, on jouait des trucs comme ça. Et puis rapidement, on s'est mis à la compo et on a commencé à se s'intégrer essentiellement sur de la compo. On a sorti quelques EP et puis là aujourd'hui, on s'est lancé dans un projet de rock en français et on sort notre premier album en français. Voilà, en rock.
D'accord. Le nom, il y a une histoire particulière ou?
Ben ouais, tu sais, on vient de Marseille, comme je te disais, et Furia Police, donc si tu décomposes, Furia c'est la fureur, et Police c'est la cité en grec, donc la cité de la fureur, et donc comme on vient de Marseille, c'était approprié, on va dire ça comme ça.
D'accord. Et finalement, est-ce que vous avez tous les membres du groupe, que, peut-être plus vous définir votre style par peut-être les influences communes que vous avez tous ensemble ou?
Qui nous rassemble tous, c'est aujourd'hui des groupes comme Nickelback, des Foo Fighters, Biffic Clyro, même Blink 182, je veux dire. Enfin voilà, c'est ce genre de mouvement-là, on se retrouve tous dedans, quoi. Tu prends l'album Westing Light, des Foo Fighters, bon ben ça nous définit clairement, quoi. Voilà.
Ok. Peut-être nous parler de ton parcours, toi, personnel, en tant qu'artiste musicien. Qu'est-ce qui t'a fait te mettre, donner envie de te mettre à cette activité-là? Quelles sont, toi, tes références personnelles?
Moi, j'ai toujours joué de la musique depuis que j'ai 12 ans. Donc, je suis tombé dans le problème de la guitare. Hein. Voilà, je me suis joué de la guitare et j'ai essentiellement fait des groupes de reprises. Voilà, ce qui m'a inspiré, c'est des groupes qui m'avaient vraiment une claque. Et j'ai compris que je voulais faire ça, c'est quand j'ai eu l'album Nevermind de Nirvana entre les mains.
D'accord.
Voilà, avant j'écoutais de la dance de merde, tu vois, et un pote qui m'a prêté Nevermind. Et à partir de là, j'ai pris une guitare et j'ai voulu jouer de la guitare. Quoi. Voilà, si tu veux savoir d'où je viens, j'ai de là.
Ok. En lisant un peu votre site internet, Facebook, etc., on peut avoir l'impression que pour vous, il y a eu une espèce de virage qui a été fait juste avant la sortie de DS.
Ouais.
Sur votre orientation, votre philosophie, tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, écoute, c'est bon, on fait du rock, hein, comme tu disais, en mode Foo Fighters, Nickelback, en anglais. Des groupes de rock qui chantent en anglais, il y en a des milliers et ils font ça très très bien même du coup. Un jour je suis allé au concert de Renaud à Marseille et il a expliqué la petite anecdote sur Johnny Newman qui peut arranger, c'était comme le rock français, ça n'existait pas. Et c'est un fictif en fait, il a dit pourquoi on ferait pas du rock en français quand on essaierait d'en faire. C'est vrai que c'est pas non plus quelque chose qui court les rues. Et donc, on est vraiment lancé toute la base de notre projet là-dessus. C'est-à-dire pas arriver à continuer à faire du rock comme on savait le faire, mais l'écrire en français cette fois-ci. Et donc, on s'est lancé le défi et on a lancé la production de l'album. Voilà.
Et avant, ça vous semblait une évidence de faire en anglais et vous n'aviez jamais fait de tentative pour franciser, entre guillemets, vos paroles?
Non, jamais vraiment. On a un titre qui s'appelle Will et qui tourne un peu et qui date de l'EP juste avant l'album où il y a une partie du chant qui est en français et donc on s'y était déjà essayé, mais vraiment faire vraiment une chanson 100% en français et même un album où on a 80% des chansons qui sont en français, non, on n'avait jamais essayé, quoi. Voilà.
D'accord. Donc tu mentionnais donc avant la sortie de DS, le dernier EP c'était Karma White. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour le groupe entre justement Karma White et DS avec, et l'envie de sauter le grand pas et d'attaquer un album?
Ben, tu sais, Karma White, donc c'était notre troisième EP. À un moment donné, on en avait marre de faire des EP, on s'est dit il faut qu'on fasse le grand saut, on avait tous envie de faire un album. Après, un album c'est plus compliqué, ça demande beaucoup plus de temps en production, de l'investissement, aussi de l'investissement financier. Mais on s'est donné les moyens de nos ambitions et on a pu vraiment faire réaliser un peu cet objectif qui traînait traîné un peu dans notre tête depuis longtemps, c'est-à-dire faire un vrai album titre, quoi.
D'accord, donc le fait de sortir consécutivement sur les premières années 3 EP, c'était pas une stratégie particulière, c'était juste un moment où bah, vous faisiez avec le temps, les moyens à disposition pour le groupe.
Ouais, c'était un peu ça, même si stratégiquement l'idée c'était quand même qu'il y ait toujours un titre qui traînait sur les réseaux sociaux, sur les pages YouTube. On s'est dit voilà, en EP on va pouvoir sortir plus souvent des titres que de faire un album et où finalement tu vas sortir 12 chansons, il va y avoir quoi, 2-3 singles qui vont tourner et le reste ça va pas dire. Donc c'était aussi une stratégie.
D'accord, si ouais, occuper le terrain et, quoi.
Ouais, voilà, c'était un peu d'occuper le terrain. Mais là, on a, voilà, avec cette histoire de dire qu'on avait envie de défendre un truc en français, on s'est dit, voilà, il faut qu'on mette les moyens, on sort vraiment un vrai album parce que c'est un réel projet, quoi. Voilà.
Alors pour ce disque, vous avez lancé une campagne crowdfunding,
ouais,
sur KissKiss. Vous avez atteint l'objectif, de mémoire, vous leviez 2000 euros,
ouais,
et vous en avez levé 2500.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. C'était plus un moyen aussi de c'était vraiment un besoin pour vous de financement pur, ou c'était aussi un moyen de générer un peu le buzz autour du groupe?
Non, clairement, c'était un moyen de financement. C'était un moyen de financement parce que pour pouvoir faire un album, il faut rentrer à midi, là, une bonne semaine, plus que ça, même deux semaines en studio. Ça coûte de l'argent et donc il a fallu financer.
D'accord.
Et en même temps, c'est vrai que c'est pas vraiment léger ce qu'on dit, mais ça nous a fait une taxe pub en fait. Les gens ont cru en notre projet et ils nous ont soutenus, au-delà de nos espérances d'ailleurs. Et donc c'est bien, finalement, ça nous a donné un petit coup de boost, quoi.
Et finalement, c'est le réseau de vos donateurs, ça a dépassé rapidement la famille, les amis, sur. Enfin, ça c'est allé aussi large que vous l'espériez, ou.
Oui, même plus large que ce qu'on pensait pour certaines personnes, et qui nous ont aidés, alors qu'on ne pensait pas du tout pouvoir les atteindre un jour. Mais non, c'est bien, on a été agréablement surpris, en tout cas, on a été soutenus, et on est toujours d'ailleurs, et ça fait chaud au cœur.
Ok, même élément toujours sur l'aspect business, DS sort en autoproduction.
Ouais.
C'est un choix délibéré ou vous êtes aussi enfin vous faites avec la situation qui est difficile de trouver ne serait-ce qu'un label de distri.
Ouais, on s'inscrit dans un schéma qui a changé depuis les 10 dernières années. Avant les groupes trouvaient un label, une boîte de prod, ils étaient produits. Aujourd'hui, les gens de maisons de disques et de boîtes de prod, ils investissent sur des groupes qui leur coûtent moins cher. Je pense à des tickets qui arrivent avec leur ordinateur et leur clé USB. C'est plus facile à financer et à produire ce genre d'artiste qu'aujourd'hui un groupe de rock avec beaucoup de matos, ils sont 4 personnes, ils font machin. La musique a tellement changé dans sa manière d'être commercialisée et produite qu'aujourd'hui, les groupes de musique sont obligés d'être
autonome
d'un point de vue production. Donc si on n'est pas capable de produire notre musique, de l'enregistrer, de produire des clips, de générer des dates, on n'intéresse personne aujourd'hui. Donc si tu veux aller toucher une boîte de prod, des trucs comme ça, il faut être autonome. Voilà.
Ok, mais donc vous fournissez un produit fini, entre guillemets, terminé, mais l'étape suivante qui parfois peut être difficile pour un groupe quand il fait, entre guillemets, tout lui-même, c'est s'assurer d'être dans les bacs des différents magasins.
Ouais, ça c'est l'aspect pour moi, alors on est entouré, hein, il y a quand même des sociétés de distribution qui nous accompagnent aujourd'hui, mais c'est encore une fois une prestation qu'on sous-traite mais qu'on maîtrise, quoi. Et
d'accord.
c'est pas évident.
Mais vous avez essayé quand même, vous avez démarché, vous avez envoyé l'album à certains labels, ou vous avez même pas entamé le processus?
Non, je suis même pas sûr qu'on ait essayé d'envoyer l'album à des labels.
Bon, après vous avez aussi le problème d'être un peu le cul entre deux chaises, vous n'êtes pas un label metal, vous n'êtes pas un label, enfin vous n'êtes pas un groupe entre guillemets variété, donc je connais pas, il y a peut-être pas de 50 structures non plus, quoi.
Exactement. On est les gens qui sont pas super rock, ils entendent ce qu'on fait, ils entendent de la disto, ils disent ouais, vous faites du metal, et puis dans les labels de métal, mais je pense qu'on fait, mais près pas du métal, les gars.
Vous êtes un peu soft, quoi. Ouais, vous êtes trop dur, vous êtes trop dur pour les uns et trop soft pour les autres, quoi.
Ouais, c'est exactement ça, quoi. Alors que je pense que le juste milieu, il existe et y a pas mal, il y a pas mal de gens qui justement, se situent dans ce juste milieu, quoi.
Cette scène-là a connu quelques beaux jours en France avec bon des Noirs Désirés et autres, mais bon, je sais pas. Ça a l'air compliqué de sortir effectivement des quelques noms qui ont pu émerger ces dernières années.
Ouais, tout à fait, ouais.
En général, comment se passe le process de création d'un titre au sein de Furia Police? C'est toujours l'un de vous qui arrive avec une structure, un riff, vous bossez dessus ensemble, c'est des jams, comment ça se passe?
Ouais, c'est ça, c'est généralement ou moi ou Nico le batteur, on arrive avec un riff et une ligne de chant, et ensuite on bosse tous à quatre sur l'élaboration du morceau. On travaille énormément sur ordinateur où on enregistre tout en piste par piste, chacun ses morceaux, chacun ses parties, on travaille, on reprend, on transforme, et du coup on arrive en studio avec un produit qui est déjà extrêmement abouti.
D'accord, voilà. Donc vous échangez pas mal de titres, toi t'as une idée, tu fais un espèce de squelette de titres, même assez simplifié, que t'envoies aux autres et tu vois comment ça réagit ou...
Ouais, exactement, c'est-à-dire que je me pose avec généralement ma guitare acoustique, parce que c'est un super moyen de savoir si une chanson marche bien, c'est de la jouer à la guitare acoustique. Et donc je me pointe avec ma guitare acoustique, mes quatre accords et ma ligne de chant, et de suite tu me dis si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Et si ça marche, à ce moment-là, on bosse bien tous les quatre dessus. Voilà.
D'accord. Finalement, vu le nombre de titres qui apparaissent sur l'album, est-ce que vous en avez travaillé beaucoup plus et après vous avez fait du tri, vous avez mis les choses de côté, ou vous avez finalement bossé que ces structures-là qui vous paraissaient avoir le meilleur potentiel? Voilà, comment vous travaillez une fois les compos, je dirais, sur la table?
On avait avant d'enregistrer, on avait plus de 20 ou 23 compos, un truc comme ça.
Mmh.
Et on a fait un choix, on a fait une sélection à un moment donné, on s'est dit qu'on en sorte 12 pour les mettre sur l'album, essayer de dégager quelque chose de le plus cohérent possible, voilà, donc on a fait un choix, on s'est arrêté sur 12 titres, voilà.
Et donc vous avez pré-maquetté que ces 12 titres-là, ou vous avez pré-maquetté tout?
Ah non, on a tout pré-maquetté.
D'accord, et donc les 12 ou 13 autres titres, ou les 8 autres titres qui n'ont pas vu le jour, c'est poubelle ou c'est à voir comment retravailler ça?
Non, ils sont dans un tiroir. Je suis pas certain qu'on les ressorte un jour parce que moi je vois un album comme une photographie d'un instant T, tu vois, c'est l'esprit du groupe qui a été capturé pendant un mois, il s'est passé ça dans la vie de Furia Police.
Mmh.
Bon ben voilà, c'est l'album DS, il est là, c'était ça. Les 8 autres chansons qui ont été composées, elles correspondent aussi à cet esprit, mais les réutiliser, ben ça serait un peu... je sais pas, c'est un peu compliqué de réutiliser des chansons. Je dis pas qu'on le fera pas, peut-être qu'un jour on aura envie d'aller en retravailler une ou en ressortir une du tiroir. Mais c'est pas forcément, c'est pas le but, quoi. Sinon,
ouais,
voilà. Sinon... c'est pas quelque chose qu'on garde sous le coude pour sortir. C'est...
Ouais, sinon vous ferez un disque, ouais, de rareté pour les 10 ou 20 ans d'anniversaire du groupe.
Ouais, voilà, j'en sais rien, oui, si, oui, peut-être. Mais c'est pas quelque chose qu'on garde sous le coude pour sortir, quoi. Voilà. Si on sort un autre album, je pense, dès que je le vois, ça sera des nouvelles compos.
D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire en général des sessions d'enregistrement de DS, et en particulier, est-ce que vous avez modifié votre façon de travailler par rapport à l'enregistrement des EP?
Oui, on a énormément changé notre manière de travailler. C'est-à-dire que, en fait, le fait de bosser sur ordinateur et de tout pré-prodé, pré-prodé, ça n'existe pas, mais tu me comprends.
Ouais.
De faire les pré-prods, quoi. Ça, c'est nouveau, parce qu'avant, on avait plutôt tendance à tout composer à quatre dans le local de répète. On jouait, on rejouait, on travaillait, on met en direct, sans enregistrer. Et là, non. Là, on a vraiment bien tout créé sur ordinateur avec Logic Audio. Voilà, on a tout bien. On a écrit les chœurs, on a écrit les guitares, les deuxièmes guitares, les troisièmes guitares, les arrangements. On a fait même les nappes en synthé ou en violon que t'as derrière. On a vraiment travaillé en amont avant le studio, et ça a été nouveau pour DS. On a utilisé ce procédé vraiment pour cet album. Voilà.
D'accord. Et j'ai vu aussi que vous aviez échangé entre guillemets l'équipe d'enregistrement, mastering et même de studio en allant au Devon Prod. C'était important pour vous de passer un cap, de monter en professionnalisation, je sais pas pourquoi, enfin, ou...
Non, le Devon Prod, on enregistre notre premier EP.
D'accord.
Et avec qui on est en contact depuis toujours. Voilà, on partage le même goût de la musique et les mêmes envies. Et au moment de choisir le studio dans lequel on allait enregistrer, il n'y a pas eu 36 options. On est allé voir notre ami Laurence au studio pour enregistrer ce truc. On l'a converti à notre projet. Voilà. Voilà, on n'a pas changé de cap d'enregistrement, on a travaillé avec des gens avec qui on avait l'habitude de travailler.
Ouais, mais c'était pas la même équipe que pour Karma White.
Ah non, effectivement, Karma White, on allait enregistrer ailleurs, tout à fait.
Ouais. D'accord.
C'est vrai.
Et donc, vous êtes revenu sur du. Voilà, sur une équipe plus. Enfin, sur un environnement plus familier.
Ouais. Ouais, et plus professionnel aussi.
D'accord.
Plus professionnel. Karma White, c'est peut-être le dernier EP, mais c'est peut-être pas celui qui a été fait le plus professionnellement. De notre part, hein, je parle pas de l'équipe qui nous a enregistrés, hein, je parle vraiment de notre manière de préparer l'EP. On n'a pas été aussi professionnel que ce qu'on a pu être sur DS, quoi.
D'accord.
Parce que le M3, c'est quand même très abouti comme studio d'enregistrement.
Ok. En termes de calendrier, si on prend vraiment tout le process de je compose, je répète, j'enregistre jusqu'au mastering, etc., c'est sur quelle période que c'est allongé la période de DS?
Tu peux compter une bonne année, je pense. Ouais.
D'accord.
Pendant un an environ. On avait déjà des comptes sous coude. Mais vraiment, la décision de dire, allez, on va tout faire sur un album, à partir du moment où on a dit ça et l'album où il est sorti, tu peux compter un an, quoi. Voilà.
Ok. Toujours sur l'album, en particulier le visuel, ouais. Donc la pochette, c'est toi qui l'as signé, c'est ça?
Oui, exactement, ouais, tout à fait.
L'idée, t'es venue comment? Enfin, est-ce que t'es déjà graphiste ou tu travailles dans le domaine?
Non, je suis pas graphiste. J'ai la photo en tant que amateur. C'est un montage d'une vraie photo et d'une image que j'ai trouvé. C'est un montage, c'est un espèce de passoire, la pochette.
Mmh.
On savait qu'on voulait appeler l'album DS. On savait qu'on voulait mettre une tête de DS dessus. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir prendre en photo quelqu'un qui était d'un calme olympien et reposé à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est exactement cette sensation-là qu'il faut qu'on arrive à transcrire sur la pochette. Donc du coup, je me suis servi de cette photo pour créer le visuel. Voilà.
Parce que ce qui est étonnant là aussi, c'est que la philosophie paraît totalement contraire à Karma White. Où vraiment le visuel donne une autre impression. Mais même sur quand on voit la visuelle, on a l'impression qu'on n'aura pas la même musique derrière.
Sur DS ou sur Karma White?
Enfin, si on compare les deux. Karma White, il y avait un côté très entre guillemets froid, très moderne, un peu techno, isant.
Ouais, d'accord, ok. Pourtant, dans les deux cas, c'est un peu quelque chose d'apaisant, quoi. Sur Karma White, c'est un Bouddha.
Ouais.
Et donc c'est quelqu'un qui ça représente quelqu'un en méditation. Là c'est une déesse qui est, tu vois, donc dans les deux cas ça a quand même une connotation assez apaisante et un peu mystique, tu vois. Voilà.
D'accord, je comprends bien.
C'est vrai que le rendu visuel, je suis d'accord avec toi, il y en a un qui est moderne, un qui est plus classique. Mais l'idée elle est quand même commune, quoi.
Il y a un fil conducteur, ouais, d'accord.
Voilà.
Toujours dans le domaine visuel, donc a priori vous vous intéressez aux médias clip vidéo. Donc vous avez sorti récemment un clip pour Emigrate or Not.
Ouais, tout à fait.
Alors de la question en deux temps. D'abord, est-ce que malgré en 2018 avec YouTube, etc., est-ce que le média vidéo reste encore un outil important pour un groupe de promotion?
Ouais, t'es obligé d'avoir un clip aujourd'hui, mais puis pas qu'un d'ailleurs. Pour un groupe, il faut un support vidéo, quoi. Ça reste encore un média super important. Ouais.
D'accord. C'est plus pour la télévision, mais c'est pour les réseaux sociaux, quoi.
Oui, le format qu'on sort aujourd'hui, c'est pas des formats de télé, c'est vraiment des formats YouTube, quoi.
D'accord. Et en général, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur l'enregistrement de ce clip-là en particulier? Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a une partie toujours, le groupe en action, entre guillemets, puis une partie scénarisée, même si c'est vous qui intervenez.
Ouais. C'est une histoire de Y, en fait. Donc cette chanson, elle parle de quelqu'un qui en a marre de sa vie et de voir les peuples se tirer entre eux et qui raillit entre le fait de tout abandonner pour aller découvrir le monde et comprendre les hommes et essayer de les rapprocher les uns les autres. Et donc le clip il raconte ça, en fait. On voit donc un personnage, donc c'est le clip qui fait partie du coup, qui en a marre un peu, qui est passé une vie compliquée et qui décide de tout quitter. Et à un moment donné, il se jette dans le vide et il rejoint Turiapolis, bien évidemment, il est le chanteur de Turiapolis. Donc c'est un espèce de message en disant que voilà, ben, on est là pour essayer de donner ce message de paix et de rassemblement. Voilà, ça, c'était un peu l'idée du clip, quoi.
D'accord, et vous avez moyen de, pendant pour tourner ça, de. Enfin, ça reste, on a de quoi s'amuser, ou il y a un côté, je refais 25 fois les mêmes choses et ça devient un peu fatigant?
Non, il y a un vrai tournage, on a fait plusieurs fois les scènes. La scène où je tombe, voilà, je t'ai dit avec, je t'ai sauté d'une échelle, et on a refait 6 fois après, je me suis fracassé, j'avais des bruits partout.
D'accord.
Donc, ouais, raconter comme ça, c'est rigolo, mais en fait, ouais, on a refait 200 fois les prises, la lumière qui est pas bonne. On a attendu que le soleil se lève, non, c'est un vrai travail.
Et il y a d'autres choses dans les tuyaux, là, qui arrivent?
Ouais, d'un point de vue clip, tu parles?
Oui.
D'un point de vue clip, samedi, on est en tournage pour faire le clip de SNCT.
D'accord.
Donc là, c'est la chanson qui est gourmande, donc ça va être un truc avec des gâteaux et du chocolat partout, donc on va rigoler aussi. Donc là, ça va être sympa.
Ok. Finalement, qu'est-ce qui vous attend là? Qu'est-ce que vous espérez dans les semaines et dans les mois qui viennent?
Qu'est-ce qu'on espère aujourd'hui là? Bon, ben, le travail de composition d'enregistrement, il est derrière nous. On est dans une phase de promo et surtout on est dans une phase de dates et de concerts. Donc, ce qu'on attend, c'est de trouver un max de dates et de faire des festivals. Donc, il y a déjà des trucs aujourd'hui qui se précisent. Et on espère pouvoir tourner et jouer cet album DS le plus possible. Voilà ce qu'on attend.
Parce que d'après ce que j'ai vu sur les quelques dates que vous avez déjà annoncées, il y a un peu Paris, puis c'est assez paca sinon, non?
Ouais, écoute, on joue à Grenoble aussi.
D'accord.
Là, c'est vrai qu'elles sont pas encore lancées les dates, mais on a des dates à Montpellier, à Toulouse, Narbonne, Perpignan.
D'accord.
Quitte à faire un album en français, on aurait essayé de jouer un peu partout en France, quoi. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, les dates annoncées, elles sont dans le sud, ok. Mais on espère bien aller plus loin.
J'ai rêvé ou j'ai vu que vous aviez joué à Prague?
Ouais, on est parti à Prague plusieurs fois. La dernière fois, c'était en 2015, je crois.
Et comment on s'accroche à un truc à Prague?
Comment on s'accroche à un truc à Prague?
Enfin, comment on décroche une date
Alors, ben, tu sais, avec c'est un peu, tu sais, du réseau et du bouche à oreille. Il y a très longtemps, en 2009-2010, on avait participé au festival émergent de la, je sais pas si tu connais. Et c'est un tremplin, quoi. Et finalement, on avait réussi à se faire caler une date à Prague. Voilà, c'était avec le tremplin, on avait gagné un truc, à Prague, Et alors, on a pris des contacts qui nous ont rappelé quelques années après, disant, ouais, on fait un super festival, est-ce que vous voulez pas venir? Alors, on a dit, ok. Mais on sentait pas d'y aller à blanc non plus, donc on a contacté des salles de concert là-bas et on a réussi à boucler 3-4 dates. Voilà. Donc, on est parti en tournée en République tchèque, en fait, on a fait 3 dates là-bas.
Et vous en gardez un bon souvenir?
Pardon?
Vous en gardez un bon souvenir?
Ah, c'était génial. On est parti, on avait un tourbus. Là-bas, ils sont à fond dans le roche. Franchement, ils ont couru après notre bus à la fin du concert. C'était juste génial, quoi.
D'accord.
Ouais, non, franchement, c'était une super expérience.
Ok. Ouais. Super. Dernière petite question. Finalement, de vue de l'intérieur, entre guillemets, qu'est-ce que tu peux nous dire de la scène rock marseillaise? Parce que comme tu disais, en général, vous faites un constat assez dur sur la scène rock française, ou en tout cas assez dur, assez, enfin, réel, hein, c'est la galère. Est-ce que localement ça bouge un peu plus? Il y a une créativité, il y a une voilà.
Ouais, alors depuis que je suis à Paris là, en discutant un peu avec des gens du milieu de la musique, ils voient Marseille comme le grand néant du rock. C'est-à-dire que Marseille, on sait faire que du rap. Et je comprends que ce soit cette image que renvoie la cité fossile, mais moi je peux vous dire qu'en local, il y a plein de groupes qui valent le coup, qui font du rock. Tu prends n'importe quelle salle de locaux de répétition, ils sont plein craqués de groupes de rock qui font vraiment du rock et du métal, et les concerts, il y en a tous les week-ends. Donc il y a vraiment une vraie mouvance. Alors elle n'est pas médiatisée, pas du tout, mais il y a vraiment une vraie communauté rock à Marseille, quoi.
Ouais,
il y a plein de groupes qui tombent super bien sur Marseille.
Au niveau métal, il y a Dagoba, non?
Ouais, voilà, au niveau métal, voilà, par exemple, il y a Dagoba, ouais, tout à fait.
D'accord, mais ça reste malheureusement un peu underground, mais ça bouge, quoi.
Ouais, voilà, il n'y a pas rien, quoi. Voilà, il se passe pas rien, hein, il y a une vraie communauté. Nous, quand on fait des concerts à Marseille, il y a du monde, quoi. Il y a du monde qui bouge.
Parce que même à part les très, enfin là c'est peut-être, là j'ai peut-être tort, peut-être à part les très grands artistes, bon ils vont jouer, je sais pas, au Vélodrome ou autre, on a l'impression que tous les, enfin moi ce que je regarde un peu plus c'est les tournées métal, ça passe rarement par Marseille.
Ouais.
Ces jours, le bikini à Toulouse a tout cassé, un peu Bordeaux et puis...
Ouais, après ça explique comment c'est géographique, hein. quand tu discutes un peu avec les tourneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tourner leur route en Angleterre, ils descendent, ils font Paris, ils font Lyon, et après ils traversent l'Allemagne, ils descendent jamais dans le sud. Voilà.
Ouais, l'Italie derrière vous est pas assez attractif pour passer, quoi, en chemin.
L'Italie, ouais, tu vois, voilà. Il y a des concerts de groupes de rock qui viennent, mais effectivement, d'un point de vue purement tourneur, et bien sûr, c'est encore une histoire de fric et de monnaie, hein.
Mm-hmm.
Ça coûte très trop cher d'en descendre jusqu'à Marseille ou Nice pour repartir après en Allemagne, c'est pas rentable.
Ouais,
vous
êtes au mieux une zone de passage, un concert au milieu, et il n'y a pas vraiment de milieu, quoi.
Ouais, voilà, exactement, c'est ça.
Super, bon bah écoute, merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous répondre.
Eh bah écoute, avec plaisir.
Et puis à très bientôt.
Ça marche, allez.
À bientôt, ciao.
Ciao.